Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Et
bonjour
merci Monsieur Sylvie d'être là aujourd'hui. Vous nous parlez du grand dossier que le magazine littéraire consacre à la Chine.
En effet Mathieu, il nous paraissait très important de consacrer un dossier à la Chine parce que, bon, vous voyez, les autres médias parlent souvent de la Chine, mais c'est souvent pour évoquer son économie redoutable, son armée en pleine croissance, ses revendications territoriales et ses méthodes de contrôle social. Et il nous paraissait rester un point aveugle qui concernait la pensée. Quelle pensée est à l'œuvre en Chine? Quelle littérature témoigne de cette pensée? Bref, qu'y a-t-il dans la tête des Chinois? Et on s'est d'abord intéressé au regard que les Chinois jettent sur l'Occident. Avec cette question simple, comment se fait-il que la jeunesse chinoise il y a 30 ans, celle qui manifestait sur la place Tiananmen, n'ait pas vu ses revendications pour une démocratie reprises par les générations ultérieures? Alors c'est un écrivain qui nous répond, il s'appelle Ma Jian, il répond dans un grand entretien. L'une des explications, c'est que la politique de l'enfant unique et la croissance économique ont produit une génération de purs consommateurs qui n'idéalisent plus du tout l'Occident, mais qui reprennent au contraire les anciennes nationalistes du régime. Et puis il y a d'autres raisons qui viennent, elles, du gouvernement Xi Jinping. Ainsi, l'enseignement en Chine a changé. Il se centre beaucoup sur l'histoire de la Chine au XIXe siècle, qui est décrit comme un siècle d'humiliation. Et il s'accompagne aussi d'une exaltation des courants de pensée traditionnels chinois. Et le but, en fait, c'est d'installer dans la tête des individus l'idée que la Chine a toujours été purement indépendante et qu'elle est incompatible avec l'Occident.
Alors pour explorer la pensée chinoise, il convenait, et vous l'avez fait, de revenir à ses fondations.
Voilà, c'est l'objet d'un grand article de Patrice Bollon qui part de la langue chinoise en fait, et qui nous explique que dans cette langue, le verbe être n'existe pas. Les termes changent de sens selon leur place. Et il n'y a pas de phrase puisqu'il n'y a pas de ponctuation. Et évidemment, ça a des conséquences sur la façon de penser. Par exemple, notre logique occidentale se forme sur un principe de non-contradiction. Une chose est soit vraie, soit fausse. Elle est soit en mouvement, soit immobile. Et en fait, jusqu'au XXe siècle, la pensée chinoise se représentait le monde comme peuplé d'objets non pas opposés, mais complémentaires. Où le mouvement devient repos, où ce qui était vrai hier devient faux aujourd'hui. Et cette pensée eh bien, peut redevenir pertinente à l'heure de la recherche en physique quantique, où une particule peut se trouver dans deux états simultanés.
Et puis vous êtes enfin intéressé, comme il se doit au magazine littéraire, aux écrivains chinois.
Voilà, alors on a un grand article d'Angel Pinault et d'Isabelle Rabu qui nous explique un petit peu l'attitude du gouvernement chinois vis-à-vis de ces écrivains. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces grands écrivains, notamment Mo Yan et Yan Liangke, sont flattés par le régime chinois qui les choisit, qui leur donne des postes honorifiques en université, qui sont rémunérés. Et en échange, ces écrivains se permettent un peu de critique sociale, mais se gardent d'aborder les sujets qui fâchent et le grand sujet qui fâche, qui est celui de Tiananmen. Mm-hmm. Ce que nous montre aussi cet article, c'est que les Chinois s'écartent de cette littérature pure pour aller vers la littérature de genre. Et là, je me suis intéressé à une de mes marottes qui s'appelle Yu Xingxin, qui est un auteur de science-fiction, qui est l'auteur phare en Chine, qui écrit une trilogie qui s'appelle Le problème à trois corps. C'est une lecture assez sidérante pour un occidental. Ça raconte l'histoire de la façon dont la Terre se prépare à une invasion extraterrestre et ça démontre un pragmatisme assez effrayant parfois, puisque des masses y sont sacrifiées, que les gens qui déplorent ces sacrifices sont traités comme des enfants puérils. Et ça démontre qu'à l'œuvre derrière cette littérature, toute une série d'autres interrogations qui n'ont rien à voir avec les interrogations judéo-chrétiennes que nous nous posons en science-fiction face à la technologie.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alexis Broca, et donc on renvoie nos auditeurs sur votre dossier du magazine littéraire. À très bientôt.